Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission « Tout savoir sur l'immigration ». C'est une nouvelle émission sur les zones de Radio Centre-Ville. Et mon nom, c'est François Jean-Denis, consultant réglementé en immigration canadienne. Je suis content d'être avec vous pendant la prochaine heure pour vous parler d'immigration. Et ça fait près de 20 ans que je suis en immigration. Et le bureau se trouve sur Jean Talon, 5350 de la rue Jean Talon. Et j'anime régulièrement des émissions d'immigration sur d'autres stations, notamment sur Radio CPAM. Et l'objectif de cette émission, c'est de vous parler d'immigration, de vous informer en temps réel sur les vrais enjeux en immigration. Parce que souvent, vous écoutez les nouvelles dans plusieurs stations, bien plusieurs médias, mais peut-être que vous ne comprenez pas les vrais enjeux. Nous allons, dans un premier temps, vous parler d'immigration en temps réel, les nouvelles que vous avez entendues. Ensuite, on va avoir un temps pour rappeler les informations les plus importantes, les programmes existants. Et à la fin, on va faire un éclairage sur un point important pendant la semaine. Par exemple, aujourd'hui, on va bien sûr parler de l'intervention musclée de François Legault à Paris. On va aussi analyser les réactions. On va parler et surtout de la réaction du ministre fédéral de l'immigration. Et en plus de ça, on va, après cette première partie, on va parler des visas de visiteurs, des visas de tous les programmes existants et comment vous pouvez prendre et avoir toutes les dispositions pour faire passer ce programme-là. Excusez-moi. Et après ça, maintenant, vous allez avoir une partie réservée à la fin pour un éclairage sur la question des demandeurs d'asile. Je sais que vous nous écoutez et vous êtes, pour la plupart, originaire de pays où vous avez et qui traversent actuellement beaucoup de difficultés. Ce sont des pays où pratiquement ou bien il y a des guerres, ou bien il y a des situations difficiles en matière d'économie ou bien des problèmes. Vous avez des proches que vous voulez faire arriver ici. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile. Et souvent, dans les médias sociaux, vous allez trouver beaucoup d'informations vous faisant croire que c'est facile, vous pouvez faire arriver ces gens-là, alors que ce n'est pas vrai. L'émission a pour objectif de vous donner l'heure juste, de vous dire exactement « voilà la situation ». Et quand on vous le dit, ce n'est pas qu'on n'est pas sensible, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à vos problèmes, ça ne veut pas dire qu'on ne vous comprend pas, mais cependant, on n'est pas là pour vous induire en erreur, on n'est pas là pour vous mentir, on est là pour vous dire les choses comme elles sont. Et c'est à ce sujet-là qu'on va vous parler d'immigration, on va vous dire toutes les choses qui se sont déroulées pendant la semaine en immigration, et à partir de là, vous allez mieux comprendre. Et c'est sûr qu'on est là pendant une heure et on veut vraiment être avec vous, discuter et puis vous donner des informations, et comme j'ai dit, en temps réel. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une toute petite pause. Tout de suite après, ce qu'on va faire, on va commencer avec les nouvelles et dans l'autre partie, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes et l'éclairage se fera à la fin, presque 10 minutes avant la fin de l'émission. Alors, j'espère que vous allez rester avec nous et en même temps que vous allez dire à vos proches d'être branchés également, parce qu'il faut tout savoir sur l'immigration et c'est ça le titre de l'émission, tout savoir sur l'immigration. Une petite pause de quelques secondes et après ça, on vous revient.
Vision Max Service pour toutes les démarches auprès des bureaux d'immigration au Canada. François Jean-Denis, consultant accrédité en immigration au Canada, vous donne l'heure juste et vous accompagne dans vos démarches jusqu'à l'obtention de vos papiers. Dossier de résidence, permis de travail, permis d'études, demande d'asile, visa de visiteur, visa d'étudiant, carte de citoyenneté, carte de résidence ou tout autre dossier concernant l'immigration, François Jean-Denis est là pour vous conseiller et vous servir. Rendez-vous au 5350 rue Jean Talon Est, entre Viau et La Cordère. Téléphone 438-876-93-98. 438-382-93-98. Vision Max Service pour des services à la hauteur de vos attentes.
Suivez votre émission « Tout savoir sur l'immigration ». Alors, on commence la première partie avec les nouvelles. Alors, comme vous avez sûrement entendu pendant cette semaine, François Legault est à Paris et pour la première fois, il évoque le transfert obligatoire de migrants vers d'autres provinces. Alors, on pourrait dire, tout le monde a été étonné quand on a entendu M. Legault dire que les transferts de migrants vers d'autres provinces canadiennes devraient être obligatoires. Ici au Québec, on parle d'à peu près 160 000 demandeurs d'asile qui se trouvent au Québec. Et M. Legault voudrait diminuer de moitié ce nombre-là d'ici l'été prochain. Alors, il faut trouver le moyen de répartir les demandeurs d'asile de façon plus équitable, a réitéré le Premier ministre. Parce qu'actuellement, tout ce qui est proposé par le gouvernement libéral, d'après ce qu'il dit, c'est une base volontaire par les demandeurs d'asile et sur une base volontaire par les autres provinces. Alors, ce qu'on veut ici au Québec, c'est que la moitié des demandeurs d'asile qui sont actuellement au Québec soient transférés dans d'autres provinces. Ce n'est pas logique qu'on ait reçu 45% des demandeurs d'asile, alors que le Québec représente 22% de la population canadienne. Or, le consentement requis des migrants et des provinces constitue un obstacle au transfert souhaité par Québec, selon M. Legault. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des résultats, a-t-il poursuivi. Alors, oui, ça devrait être obligatoire, mais c'est au gouvernement fédéral de gérer ça. M. Legault estime qu'Ottawa doit rendre obligatoire et non volontaire la relocalisation des demandeurs d'asile et cela s'appliquerait aussi à ceux qui sont déjà sur le territoire, a-t-il précisé. Ce que je veux, c'est qu'il y ait des résultats, donc oui, c'est obligatoire. Une fois qu'il a dit ça, c'est comme si on a l'impression que c'est une bombe qui a été lancée parce que tout le monde se dit choqué par cette prise de position de M. Legault. D'abord, Québec solidaire s'est dit horrifié. Le porte-parole de Québec solidaire en matière d'immigration, M. Guillaume Clichy-Rivard, et qui est avocat et qui a travaillé en immigration, a reproché au Premier ministre d'avoir dépassé les bornes. Il a dit « Jamais, jamais au Québec, on ne va organiser des déménagements forcés à ce moment. Jamais on ne va faire ça. » C'est tout simplement impossible, même dans l'opérationnalisation, et le Premier ministre l'admet lui-même. Il ne sait même pas comment il ferait ça. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va juste appeler les gens au téléphone et dire « Aujourd'hui, vous allez vous rendre au Manitoba, vous allez vous rendre au Nouveau-Brunswick. » Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça, c'est sûr que M. Legault a dit ça sans même réfléchir exactement à l'opérationnalisation de ça. On parle de gens qui sont venus d'un peu partout, des zones de sécurité fondamentales, qui sont venus ici pour demander la protection. On les reçoit ici, on va commencer à laisser poindre l'idée qu'on va les forcer de quitter une fois qu'ils sont installés. Ça ne fonctionne pas. Le Premier ministre dépasse les bornes. Le ministre fédéral de l'immigration a qualifié la position de M. Legault d'insensée. Il dit que ce n'est pas normal que M. Legault ait tenu des propos comme ça. Est-ce qu'il nous demande d'aller les chercher chez eux, puis les envoyer, les refouler en Ontario? Je pense qu'il faut être très précis dans sa pensée, parce que pour moi, ça risque d'être interprété comme étant inhumain, a-t-il fait valoir mercredi à Ottawa. Le chef du Parti libéral du Québec, M. Mac Tanguay, a pour sa part rappelé que le fédéral était en train de mettre en place des incitatifs en matière de logement et d'employabilité, par exemple, pour convaincre les demandeurs d'asile de se rendre de leur propre chef dans d'autres provinces. Mais on ne peut pas manu militari face à des êtres humains qui sont en détresse, qui sont réfugiés, commencer à se saisir d'eux et à les gaucher, a-t-il protesté en point de presse. On sait que Ottawa et Québec sont à couteau tiré sur l'immigration depuis des mois. Le gouvernement Legault réclame entre autres que les demandeurs d'asile qui débarquent en masse à l'aéroport Montréal-Trudeau puissent être transférés ailleurs au pays dès leur arrivée. Or, bien peu de provinces se sont montrées intéressées jusqu'ici. Pour juguler le problème, le gouvernement Legault a également proposé à Ottawa de créer des zones d'attente qui pourraient servir à héberger des migrants en attendant leur transfert vers d'autres provinces. Mais le ministre fédéral de l'immigration a rejeté la proposition mardi, la jugeant malséante. Et de telles zones existent pourtant en France. François Legault devrait d'ailleurs en discuter avec le Premier ministre français Michel Barnier. Le Canada pourrait tout à fait s'inspirer de l'Europe pour opérationnaliser le transfert obligatoire de migrants vers d'autres provinces canadiennes, a dit Mme Christine Fréchette, qui était aux commandes du ministère de l'Immigration. La France a un système, l'Allemagne en a un autre, il y a plusieurs cas d'exemple, l'Union européenne aussi, a-t-elle lancé à la presse en réunion et hebdomadaire du Conseil des ministres. Ottawa a dit qu'il y a déjà sur la table un plan de répartition des demandeurs d'asile. Ottawa a déjà mis sur la table une proposition élaborée d'un réseau d'hébergement temporaire des demandeurs d'asile, comme le réclame Québec, selon les documents obtenus par Le Devoir. Le modèle de relocalisation volontaire présenté à toutes les provinces compte sur des incitatifs, y compris financiers, pour convaincre jusqu'à 47 000 demandeurs de se reloger ailleurs au pays. Alors que les relations entre Québec et Ottawa sont de plus en plus tendues sur ces questions, le Premier ministre François Legault a exhorté mardi le fédéral à trouver des solutions, notamment en créant des zones d'attente. Cette idée avait été exposée et dans une lettre envoyée à Ottawa et datée de juillet 2024. On y évoquait aussi la possibilité de limiter le permis de travail à une zone géographique. Le modèle de répartition d'Ottawa mise plutôt sur les demandeurs qui ont besoin d'une aide immédiate au logement. À leur arrivée, les demandeurs qui n'ont aucun logement déjà prévu seraient transportés vers des centres d'hébergement provisoires. Ceux qui se trouvent dans des hôtels financés par Immigration Canada ou des lieux gérés par la province ou les municipalités seraient consultés pour savoir s'ils souhaitent être relogés, détaillent aussi les documents obtenus. Il s'agirait par exemple de leur fournir des informations sur la capacité d'accueil d'autres juridictions ou encore la disponibilité d'emploi par domaine ou de logement. Le consentement éclairé et explicite dans un formulaire serait donc exigé pour la répartition. Ce serait ensuite Immigration Canada qui s'occuperait d'affecter les demandeurs à une nouvelle province et de coordonner leur transport. Des solutions tangibles existent déjà, soutient le cabinet du ministre fédéral de l'Immigration lorsque questionné sur ce modèle. Une modélisation soumise à toutes les provinces montre également que Québec pourrait soustraire 47 000 demandeurs d'asile si la répartition volontaire fonctionnait à plein régime. La province compterait alors un peu plus de 51 000 personnes de cette catégorie, ce qui correspond à sa part de population au pays, 22%. En termes d'incitatifs, le fédéral a également promis 1,1 milliard de dollars sur 3 ans pour renforcer les capacités des provinces qui lèveraient la main pour loger ces personnes. Cette enveloppe est en sus de celle confirmée en juin à Québec de 750 millions pour couvrir les dépenses de 2021 à 2023 pour les services offerts aux demandeurs et de transferts réguliers annuels vers la province qui s'élève à 775 millions de dollars cette année. Ces deux propositions contrastent sur l'approche. Québec met en avant des mesures plus coercitives, alors qu'Ottawa mise sur l'information et les incitatifs. Les zones d'attente mentionnées par M. Legault lors de son passage en France impliquent un contrôle de la mobilité, confirme Adèle Garnier, professeure de géographie à l'Université Laval. Tu te trouves dans une zone délimitée à l'intérieur de l'aéroport et immobilisé dans cette zone, à moins d'être amené pour dormir à l'hôtel. Tu n'es pas libre de tes mouvements et c'est une forme de détention, même si tu n'es pas dans une cellule, détaille-t-elle. Les défenseurs des droits de la personne s'opposent à ces zones en France, précise la chercheuse. Ce n'est pas une décision sur le fond de la demande qui est prise dans ces zones, mais plutôt sur leur première admissibilité. Les demandeurs d'asile ne déposent en outre pas tous leurs requêtes à la frontière directement, ça c'est un autre problème, et ne passeraient donc pas dans les zones d'attente. Parce que environ 40% des demandes qui ont été réalisées au Québec en 2024 ont été faites dans des bureaux à l'intérieur du territoire, plutôt qu'à l'aéroport ou à la frontière terrestre. 40% des demandes. Le nombre de nouvelles demandes d'asile s'est par ailleurs infléchi dans les 3 derniers mois au Québec, passant d'une moyenne de 5200 en janvier à 3758 pour le mois d'août. Le nombre de demandeurs hébergés dans des hôtels réservés par le fédéral a aussi été divisé par 10 depuis le début de l'année, descendant à environ 225 dans les dernières semaines. Les deux centres d'hébergement temporaire gérés provincialement ne comptent en ce moment qu'environ 70 lits disponibles sur un total de 1150. Madame Garnier déplore la politisation de ces enjeux. Elle est dangereuse car elle se fait sur le dos des gens qui ne votent pas, mais c'est un discours imprudent qui ne règle aucun problème sur le fond. Oui, le dossier est politisé. La relocalisation volontaire ne peut fonctionner que si les autres provinces acceptent de faire leur part, a souligné à plusieurs reprises le ministre Miller, invitant M. Legault à faire ses propres représentations auprès de ses homologues. Québec fait pression de son côté pour que les provinces réfractaires s'exposent à davantage de conséquences. Le ministre de l'Immigration, M. Jean-François Lé-Auberge, déplorait samedi dernier de ne voir aucune avancée de la part d'Ottawa. Il avait dit plus tôt la semaine dernière qu'il n'y avait pas de progrès et que le fédéral refusait de s'engager à une répartition équitable. Les deux ordres de gouvernement s'accusent mutuellement d'inaction et je pense qu'ils ne sont pas intéressés à des solutions concrètes, a déclaré M. Miller en mêlée de presse. Dans une lettre à M. Auberge pour remettre les pendules à l'heure, M. Miller reproche notamment à Québec de continuer à comptabiliser les demandeurs d'asile déjà approuvés comme des temporaires, alors qu'ils pourraient déjà être permanents en raison du plafonnement annuel. Il y aurait en effet environ 30 000 demandeurs déjà approuvés, personnes protégées sur le territoire québécois, comme l'a révélé Le Devoir, avec une cible annuelle du gouvernement de M. Legault de 3 500 par année. M. Miller a dit mardi qu'il n'a pas encore reçu le plan de Québec pour diminuer le nombre de résidents temporaires. M. Legault fait quant à lui valoir qu'il n'est compétence que sur 180 000 des 600 000 immigrants temporaires. Alors c'est un dossier assez complexe. C'est sûr qu'on va y revenir pour un éclairage à la fin de l'émission, mais vous comprenez qu'il y a deux positions. Le Québec qui veut forcer les demandeurs d'asile, la moitié, 80 000, à quitter la province. Et Ottawa dit, ce n'est pas possible. D'abord, la Charte canadienne des droits et libertés ne permet pas à un premier ministre de forcer ces demandeurs d'asile. On a l'impression qu'on se retrouverait aux États-Unis, où, comme vous vous rappelez, il y avait des gouverneurs républicains qui avaient nolisé des bus et qui avaient demandé à ces migrants-là de se rendre dans des États gouvernés par des démocrates. Alors, on ne peut pas arriver dans cette situation-là. Et comme a dit Maître Guillaume Clichy-Rivard de Québec solidaire, jamais on ne va arriver dans cette situation-là. Toujours concernant les demandeurs d'asile, on apprend aussi que M. Legault avait été prévenu que déplacer et de force les demandeurs d'asile viole la charte. Il a été informé dès le printemps que l'idée de déplacer de force 80 000 demandeurs d'asile ne respecterait pas les obligations constitutionnelles, signale Ottawa. Le cabinet du premier ministre du Québec rétorque n'avoir aucun souvenir d'une telle conversation. On ne peut pas forcer, nous autres, légalement, une personne à se déplacer dans une autre province. La personne doit y aller de son propre gré. Ça a toujours été mis très clair avec Québec, a déclaré vendredi une source au gouvernement fédéral qui s'exprimait sous condition d'anonymat. Et Ottawa dit avoir communiqué cela à Québec au début de l'été, avant la rencontre de juin entre M. Legault et M. Trudeau. M. Legault, qui est au quatrième jour de sa visite en France, soutient depuis mercredi que la moitié des demandeurs d'asile déjà établis au Québec doivent être déplacés de force vers d'autres provinces, mais il refuse de dire comment il s'y prendrait. Alors, ça, c'est vraiment une situation que M. Legault devra expliquer une fois qu'il arrive ici, parce qu'on ne peut pas comprendre comment on va atteindre cet objectif-là. Et on sait également que, de manière générale, Québec et Ottawa souhaitent que le gouvernement Legault mette ses énergies à régler des problèmes en matière d'immigration dans les champs qu'il contrôle. Par exemple, au chapitre des permis d'études que la province délivre. Selon les données fournies par le gouvernement fédéral, 4 institutions québécoises se trouvent dans le top 10 de celles au Canada où, entre janvier et août, il y a plus de personnes qui sont entrées avec des visas étudiants et qui ont ensuite demandé l'asile. On parle de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a 305 personnes qui sont venues comme étudiants, mais qui ont demandé l'asile. Il y a le Collège Élis, campus de Trois-Rivières. Il y a 255 étudiants qui ont demandé l'asile. Il y a l'Université Laval, 225 étudiants. Il y a l'Université du Québec à Trois-Rivières, 215 étudiants ont demandé l'asile. Et selon un tableau préparé par le gouvernement fédéral, il y aurait d'ailleurs 96 021 demandeurs d'asile présents au Québec en ce moment et non environ 160 000 comme l'affirme le gouvernement de M. Legault. Alors vous voyez, il y a une guerre de chiffres entre les deux paliers du gouvernement. L'équipe du premier ministre du Québec a indiqué que son chiffre correspond au nombre de demandeurs d'asile et traités au Québec au cours des trois dernières années selon les données de Statistique Canada. Ici, on doit aussi faire le rappel parce qu'une fois que la personne a été à l'audience et est devenue soit personne réfugiée ou une personne à protéger, la personne n'est plus demandeur d'asile et en même temps, on ne peut pas parler de résident temporaire. C'est une personne qui a reçu l'autorisation de rester au pays de façon permanente. Ottawa souhaite également que M. Legault travaille à sensibiliser les premiers ministres des autres provinces à accueillir davantage de demandeurs d'asile. Nous, on fait notre part, mais on a besoin d'avoir une approche collaboratrice, a dit la source fédérale. Elle estime même que le gouvernement Legault freine les efforts en matière d'immigration par ses déclarations, parce que autrement, on pourrait observer une nette amélioration au chapitre des demandeurs d'asile. L'entourage de M. Legault reproche à Ottawa d'avoir une approche qui mise uniquement sur la volonté des provinces et des demandeurs d'asile, ce qui n'a donné aucun résultat. Et on a aussi une réaction du maire du Québec, M. Marchand, Bruno Marchand, qui invite M. Legault à faire attention en s'exprimant au sujet des demandeurs d'asile. Et le maire de Québec craint que les propos du premier ministre puissent constituer une caution morale permettant de libérer une parole raciste chez une partie de la population québécoise. Mais c'est bien le cas, M. le maire. Au cours des derniers jours, M. Legault a réitéré sa demande pour qu'Ottawa oblige la moitié des demandeurs d'asile à quitter le Québec. Et parce qu'à ses yeux, la capacité d'accueil du Québec a atteint sa limite. Le maire du Québec dit « Je pense qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui entendent ça et je ne pense pas, c'est ce que M. Legault souhaitait, avec une forme de caution morale envers leur propre racisme. Il y a des gens qui se disent « Ah, je le savais » et qui comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre des propos du premier ministre. C'est un piège à éviter. Je ne pense pas qu'il voulait, mais s'il faut éviter de parler en ces termes-là. Il explique aussi que le marché du travail au Québec a besoin des immigrants, mais il ne s'agit que d'une partie de l'équation. On en a besoin pour le marché du travail, mais c'est beaucoup plus que ça. La main-d'œuvre immigrante n'est pas qu'une main-d'œuvre. La personne immigrante qui vient chez nous, ce n'est pas quelque chose de mercantile où on utilise un humain pour une force de production. Sa contribution économique est importante. On en a besoin, mais sa contribution sociale et humaine aussi. C'est ça qu'il faut comprendre de l'immigration. Ce n'est pas un humain qui vient avec ses bras et ses pieds travailler dans un champ ou travailler dans une usine. C'est un humain qui vient vivre dans une communauté et qui l'enrichit. C'est ça qu'il faut penser et c'est ce que M. Legault n'a jamais compris de l'immigration. Maintenant, on a également, et on a parlé de la question de la politisation, ça veut dire que des deux côtés, on nous dit qu'il y a toujours une question de politisation de cette question d'immigration, que ce soit avec M. Legault et M. Trudeau, mais en même temps, on nous dit que dans l'histoire, cette question a été toujours politisée. On a parlé, par exemple, on se rappelle de l'intervention de l'ancien premier ministre Parizeau, qui avait dit que le Québec avait perdu le vote et à cause du vote des immigrants. Alors, on se rappelle de ça. On se rappelle également de Mario Dumont en 2007, qui avait dit également, qui avait parlé d'accommodement jugé excessif. Et avec ça, M. Mario Dumont était devenu le chef de l'opposition à Québec. On se rappelle aussi en 2018, la CAQ avait dit et on va en prendre moins pour en prendre soin. Ça veut dire qu'on voulait réduire les seuils d'immigration de 50 000 à 40 000. Mais dans les faits, on voit que M. Legault, il a pris davantage Actuellement, on est passé à près de 600 000 résidents temporaires. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas fait venir des résidents permanents dans le programme de travailleurs qualifiés. On a préféré laisser de côté le programme ARIMA qui pourrait faire venir des personnes qualifiées, mais on a préféré aller en France, aller choisir des personnes qui ressemblent mieux aux Québécois. Alors, c'est ça la question. Et on comprend que ce dossier d'immigration a été toujours politisé et c'est dommage. Maintenant, on passe à un autre chapitre. On apprend également que Québec a décidé d'arrêter le recrutement des infirmières en Afrique pour des raisons éthiques. Québec souhaite poursuivre le recrutement du personnel infirmier à l'étranger, mais n'ira plus en solliciter dans les pays comme le Maroc et le Cameroun en réponse aux pressions internationales. Depuis 2 ans, imaginez, Québec a recruté autour de 1000 infirmières en Afrique, en particulier au Cameroun, au Maroc et en Côte d'Ivoire. À ce jour, le programme de 65 millions a suscité un tel engouement que le gouvernement veut recruter 235 candidats supplémentaires à l'étranger pour combler ses besoins en main-d'œuvre. Or, Radio-Canada a appris que le recrutement cesse dans tous les pays d'Afrique, sauf la Tunisie, et pour des raisons éthiques. Dans une démarche de recrutement éthique et de respect des populations locales, la promotion a ciblé les pays dont les gouvernements ont autorisé des actions de recrutement au Québec. Selon les informations qui sont disponibles, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Maroc ne figurent pas parmi les destinations de recrutement. Le Maroc a demandé d'exclure les infirmiers d'État de nos activités de recrutement à partir du deuxième trimestre de 2024, consigne que nous avons respectée. Certains pays d'Afrique nous ont demandé d'y limiter l'embauche en 2024, demande que nous avons aussi respectée, confirme par courriel une porte-parole du ministère de l'Immigration. Comme l'explique la porte-parole du MIFI, les pays invoquent le coût élevé de la formation assumée par eux pour former leurs professionnels de la santé, ainsi que les risques associés au manque de main-d'œuvre présent ou futur pour répondre à leurs propres besoins nationaux. Pour d'autres pays, c'est le Québec qui a unilatéralement décidé de limiter ou de cesser le recrutement pour ne pas exposer la population locale à des risques sanitaires, et ce, malgré le fort taux de chômage observé dans le secteur de la santé dans ces mêmes pays. À l'ambassade du Royaume du Maroc au Canada, on se dit satisfait de la décision du gouvernement québécois. En agissant de la sorte, il me semble que le Québec a véritablement pris une décision réfléchie, juste, éthique et équitable. Les infirmiers et infirmières du Maroc quittent leur pays par centaines, voire par milliers chaque année pour aller au Canada, en Europe ou dans les pays arabes, souligne la diplomate. Selon Mme Otmani, des dispensaires sont construits, équipés, mais ne peuvent fonctionner parce que le personnel médical et infirmier fait défaut. La vie des milliers de personnes au Maroc est carrément en jeu. Il faut dire que le Québec a essuyé des critiques depuis le lancement de son vaste programme de recrutement en février 2022. L'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a dressé une liste de 55 pays qui ont des problèmes les plus graves en matière de personnel de santé pour alerter les nations occidentales et leur demander de protéger les systèmes de santé vulnérables. Selon les données de l'OMS, le Cameroun compte 1,9 infirmières pour 10 000 habitants, alors que le Québec en compte près d'une centaine. Une infirmière africaine sur 10 travaillerait hors du continent. Les discussions qui se tenaient entre ces pays-là, comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, ont abouti à cette conclusion-là, parce qu'on a dit qu'on a entendu trop de plaintes, trop de situations difficiles concernant chaque pays et parce que les gens ne pouvaient pas avoir des soins. En entrevue à Radio-Canada, Mme Little salue la décision du Québec de ne plus recruter dans des pays comme le Cameroun. C'est tout à fait le genre d'action et de réflexion que nous espérons voir de la part d'un pays à mesure qu'il s'oriente vers ce que nous appelons le recrutement éthique. Des associations d'infirmières des Philippines et des membres du ministère de la Santé des Philippines déclarent publiquement qu'il faut arrêter de recruter dans leur pays. Alors, c'est ça la situation. On nous dit qu'il faut faire ça, mais c'est une bonne décision prise par Québec. On a deux informations à partager avec vous avant de prendre la pause. C'est Donald Trump qui annonce qu'il va révoquer le TPS des migrants haïtiens à Springfield s'il est réélu. Il a affirmé mercredi qu'il révoquerait le statut de protection temporaire des migrants haïtiens à Springfield, dans l'Ohio, et qu'il les expulserait s'il était réélu en novembre, ont rapporté des médias américains. Vous devez renvoyer les gens et vous devez les ramener dans leur propre pays. À mon avis, ce n'est pas légal, a déclaré M. Trump dans une interview accordée à News Nation. On sait que depuis quelque temps, M. Trump fait une campagne contre les Haïtiens aux États-Unis, notamment dans l'Ohio, mais il dit qu'il va mettre fin à ce programme-là et même au programme qu'on appelle généralement le programme Biden, parce qu'on ne veut pas arriver à ça. Et dernière chose pour terminer, on apprend également que la République dominicaine a l'intention d'expulser près de 10 000 Haïtiens par semaine. 10 000 Haïtiens par semaine. La nouvelle est sortie cette semaine et là, on se dit que si c'est le cas, on va avoir une autre crise en Haïti parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Haïtiens qui sont actuellement en République dominicaine parce qu'ils ne peuvent pas rester au pays à cause de la guerre des gangs, à cause de tous les conflits. Des femmes sont violées, des personnes sont kidnappées, on nous demande des rançons. Et c'est une situation extrêmement compliquée parce que la police ne protège pas les gens. Alors, dans les circonstances, la République dominicaine a annoncé qu'elle va expulser près de 10 000 Haïtiens par semaine. Et ça devrait commencer la semaine prochaine. Alors, on va suivre ça pour vous. Si c'est fait, on va vous annoncer ça parce qu'on est avec vous chaque samedi de 7h à 8h. On va prendre une pause et tout de suite après, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. On va vous parler des programmes et on va surtout vous dire la façon dont vous devez procéder pour faire des demandes au niveau de Immigration Canada ou bien Immigration Québec. Et une toute petite pause.
Vision Max Service pour toutes les démarches auprès des bureaux d'immigration au Canada. François Jean-Denis, consultant accrédité en immigration au Canada, vous donne l'heure juste et vous accompagne dans vos démarches jusqu'à l'obtention de vos papiers. Dossier de résidence, permis de travail, permis d'études, demande d'asile, visa de visiteur, visa d'étudiant, carte de citoyenneté, carte de résidence ou tout autre dossier concernant l'immigration, François Jean-Denis est là pour vous conseiller et vous servir. Rendez-vous au 5350 rue Jean-Talon Est, entre Vio et La Cordère. Téléphone 438-876-93-98. 438-382-93-98. Vision Max Service pour des services à la hauteur de vos attentes. Désormais, tous les samedis, de 7h à 8h du matin, Vision Max Service vous livre toutes les informations nécessaires sur l'immigration sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, consultant accrédité en immigration au Canada.
Votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398, 438-385-9398. Nous avons trois numéros de téléphone que vous pouvez composer pour nous rejoindre. Les heures de bureau sont du lundi au vendredi de 9h à 5h. 9h à 5h, vous pouvez nous appeler si vous avez besoin d'un service et nous allons regarder avec vous les différents services que nous vous proposons. D'abord pour les questions de visa de visiteur. Visa de visiteur, si vous êtes ici, vous voulez inviter vos amis, vos proches. Par exemple, là, on s'approche des fêtes de fin d'année. Pour les fêtes de fin d'année, vous savez que c'est sûr que la famille voudrait être ensemble. Alors, peut-être que vous seriez intéressé à inviter un et votre père, votre mère, ou bien à inviter un frère, une sœur, un membre de la famille. Sachez que pour avoir un visa de visiteur, ça prend des garanties, ça prend des preuves d'attachement. L'agent d'immigration qui reçoit la demande doit s'assurer que la personne va retourner dans son pays après la date autorisée. Ça veut dire que si vous faites venir quelqu'un ici, et c'est sûr que si la personne avait dit qu'elle ferait 15 jours, 22 jours ou bien un mois, normalement la personne devrait retourner au pays. Quand on a deux types de visas, il y a un visa régulier, la personne a la possibilité de faire 6 mois, dépendamment de ce que l'agent d'immigration décide au point d'entrée. Il y a le super visa. Le super visa, actuellement, la personne peut faire jusqu'à 5 ans et le renouvellement peut être de 2 ans. Le super visa n'est pas comme ce que vous dites là, une demi-résidence. Le super visa, c'est un visa de visiteur. Ça veut dire que la personne n'a pas le droit de travailler, elle n'a pas le droit d'étudier et la personne doit quitter après le séjour. Et le super visa se fait pour des personnes qui sont à la retraite, qui veulent passer du temps avec les membres de leur famille. Quand, par exemple, je vois des personnes qui sont âgés de 30 ans, de 40 ans, des gens qui travaillent et qui me disent « Oui, j'aimerais faire un super visa. » Mais ce n'est pas approprié pour vous parce que le super visa vous donne le droit de passer 5 ans. Est-ce que vous avez 5 ans de vacances? Est-ce que vous avez l'autorisation, un congé de 5 ans dans votre travail? Vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas faire la demande de super visa pour des jeunes. C'est surtout pour les parents, pour les grands-parents qui viennent. Alors, quand vous venez ici avec votre visa, à l'aéroport ou au point d'entrée, l'agent d'immigration, s'il ne met absolument rien dans le... Il met, par exemple, l'étampe, et s'il ne met pas de date en dessous de l'étampe, ça veut dire que vous pouvez rester jusqu'à 6 mois. Et si jamais vous décidez de rester plus de temps, je vous conseille de faire la prolongation. Vous ne pouvez pas rester au pays en disant que, on ne va pas me voir, on ne va pas savoir quand j'étais venu. Non, vous vous trompez. J'ai déjà vu, parce que ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, j'ai déjà vu des personnes qui n'ont pas prolongé leur séjour et qui sont restées à la maison. Malheureusement, dans ce quartier-là, il y avait un problème, on a appelé la police. Pendant que des agents de police étaient sur place et ils ont décidé de demander à des personnes qui étaient là de prouver leur statut. Et on a vu un monsieur qui était âgé de 75 ans, qui était devant, qui était en train de donner et de s'amuser avec d'autres personnes. Et là, on lui a dit, « Monsieur, montrez-moi votre statut. » Lorsque l'agent d'immigration a constaté qu'il était au pays après plus d'un an, il n'avait pas fait de prolongation, on a appelé l'agent des services frontaliers et cette personne-là a été amenée au centre de détention de Laval. Imaginez, ça veut dire que vous qui êtes parent, vous qui avez fait venir une personne pour une visite, si elle doit rester au-delà de 6 mois parce qu'elle avait un visa régulier, un visa de visiteur, vous devez vous assurer, vous devez faire la prolongation de séjour. Ne dites pas que « Oh non, 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 on n'a pas le temps » et les gens ne vont pas savoir qu'elle est là. Non, faites attention, parce que de toute façon, si vous saviez de quoi demain serait fait, à ce moment-là, vous auriez pris des dispositions. Mais comme vous ne savez pas, vous devez prendre des précautions. Alors, visa régulier, c'est pour des personnes qui sont venues et qui, avec un visa, par exemple, de 6 mois et comme date limite, et la personne après 6 mois, si elle décide de rester, doit, par exemple, faire la prolongation. Super visa, maintenant c'est 5 ans, et au point d'entrée, on va mettre en dessous de l'étampe la date limite. Et si maintenant, après 5 ans, vous voulez que votre père, votre mère, ou bien grand-père, grand-mère reste, il faut faire la prolongation de séjour. Vous ne pouvez pas faire une demande de visa de visiteur pendant que vous êtes au Canada. Il y a deux catégories de personnes qui peuvent faire ça. Les étudiants étrangers qui sont ici et les travailleurs étrangers temporaires. Si vous êtes étudiant étranger, travailleur étranger temporaire, vous pouvez faire votre demande de visa de visiteur pour aller voir vos parents à l'étranger. Il y a un bureau à Ottawa qui s'occupe de ça. Et pour la demande de visa de visiteur à l'étranger, Il faut avoir des preuves d'attachement. Malheureusement, c'est ce qui manque. Je prends l'exemple d'Haïti que je connais très bien. La plupart des gens ne travaillent pas. Et ensuite, avec toutes les difficultés qu'elle connaît, cette personne-là n'arrive pas à trouver une attestation bancaire, elle ne travaille pas. En plus de ça, l'expérience a prouvé que la plupart des gens qui viennent d'Haïti ou qui viennent de certains pays d'Afrique, la plupart des gens ne retournent pas. Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'il y a un lien de cause à effet entre les personnes qui arrivent ici et qui font des demandes d'asile qui ne retournent pas et le nombre de visas qu'on va délivrer par la suite. Plus les gens arrivent ici et ne retournent pas, plus on va refuser des demandes de visa de visiteurs et à l'étranger. Alors, vous devez être informé de ça. Pour les permis d'études, actuellement, et le trimestre d'automne a commencé au mois de septembre, on travaille pour le trimestre d'hiver. C'est devenu de plus en plus difficile maintenant d'avoir des lettres d'admission. Pourquoi? Parce que le fédéral a décidé de diminuer le nombre d'étudiants ici au Canada. Maintenant, il y a des quotas par province. Tantôt, je viens de vous dire qu'il y a des universités au Québec et qui ont reçu des étudiants étrangers. Et ces étudiants-là, pour la plupart, ont fait des demandes d'asile. Ça va aussi avoir un impact sur les dossiers traités à l'étranger. Maintenant, quand vous faites une demande de permis d'études, non seulement il faut avoir la lettre d'admission, si c'est au Québec, il faut avoir le CAQ. Ensuite, il faut faire la demande de permis d'études. Actuellement, on est censé bloquer sur l'admission parce que chaque province a un quota et la province distribue à des écoles un nombre d'étudiants et de possibilités. Et finalement, quand on appelle une école, on vous dit « Ah non, on n'offre pas ce programme-là » ou bien « On a déjà atteint notre quota ». Alors, c'est devenu de plus en plus difficile. Si vous êtes ici ou bien vous êtes à l'étranger, vous nous suivez, vous voulez aider un jeune à venir ici, oui, c'est possible. Mais cependant, il faut prendre les bonnes dispositions et surtout, il faut avoir la capacité financière. On ne peut pas faire une demande de permis d'études si on n'a pas prouvé qu'on a les moyens pour payer les études. Depuis le mois de décembre 2023, le gouvernement canadien a augmenté les frais d'hébergement. On est passé de 10 000 à 20 000 $ seulement pour les frais d'hébergement. Et si on ajoute maintenant les frais de scolarité, si c'est à l'université, ça peut aller jusqu'à 30 000 par année. Si c'est au niveau technique, à un cégep, ça peut aller jusqu'à 20 000, 25 000. Et si c'est un DEP, ça peut aller jusqu'à 15 000, 20 000. Alors, vous imaginez que si vous décidez de faire une demande de permis d'études, vous devez avoir les moyens pour payer l'école. Maintenant, le permis de travail. Si vous voulez faire une demande de permis de travail, souvent, ce qui arrive lorsque les gens viennent ici, soit ils viennent des États-Unis ou ils viennent de l'Europe, ils nous disent « Ah, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un permis de travail. » Par les temps qui courent, c'est devenu très difficile pour un permis de travail. Pourquoi? Parce que non seulement on a trouvé qu'il y a trop de résidents temporaires ici au pays, on parle de près de 6 millions au Canada et on parle de près de 600 000 au Québec. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, on a vu Québec a mis un moratoire sur l'île de Montréal pendant 6 ans. Et en plus de ça, ça veut dire que si le salaire qu'on propose est inférieur à 57 000 $ on ne peut pas faire des demandes. Alors aujourd'hui, c'est très difficile. Si par exemple, vous avez besoin d'une aide familiale résidente, ça veut dire que vous êtes un fournisseur de soins à domicile, vous voulez effectivement avoir quelqu'un pour vous aider, c'est possible, mais cependant, il faut savoir que, un, vous devez avoir les moyens pour payer la personne qui arrive, et deux, il y a des démarches à faire. Si le domaine ou bien si l'emploi que vous offrez ne fait pas partie des emplois que Québec a sélectionné comme des emplois où il est difficile de trouver des personnes, ça va être compliqué. Quand vous venez nous voir, moi je vous explique tout ça. Parce que mon objectif, c'est de vous aider à comprendre ça. Si vous venez me voir, je vais vous expliquer voilà comment ça fonctionne. Et si on ne peut pas faire une demande, je vais vous le dire. Parce que mon objectif, ce n'est pas de faire des demandes juste pour faire des demandes. Mais non, c'est vous expliquer. Et en plus de ça, vous aider à comprendre et à faire la demande si c'est possible. Maintenant, si on parle de carte de résidence, vous voulez renouveler votre carte de résidence. Alors, vous pouvez passer nous voir au bureau. On va renouveler pour vous la carte de résidence. Mais une fois qu'on a renouvelé, si vous voulez faire un suivi, vous allez appeler Immigration Canada au 1-888-242-2100. Ça veut dire que Immigration Canada a son numéro, vous appelez. Mais souvent, vous me dites, ah oui, ça prend beaucoup de temps. Imaginez que vous n'êtes pas capable, vous ne voulez pas attendre et peut-être 30 minutes, 40 minutes pour appeler. Quand on fait une demande pour quelqu'un au bureau pour une carte de résidence, nous, on ne fait pas de suivi parce que de toute façon, on fait la demande et ensuite, on vous soumet, on vous donne l'enveloppe, vous allez la poster pour vous assurer que tout est fait correctement. Et c'est la même chose pour la citoyenneté. Il y en a qui ont fait leur demande, il y en a qui ont prêté le serment et qui, jusqu'à présent, qui ont fait l'examen, qui n'ont pas pu avoir le rendez-vous pour prêter le serment. C'est compliqué avec la citoyenneté. Alors, ce qu'on vous dit aujourd'hui, on est en mesure de vous aider à faire la demande, mais cependant, le suivi, c'est à vous de le faire. On passe maintenant aux demandes de résidence permanente, par exemple, les travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, on a deux programmes. On a deux programmes, programme et ARIMA et programme Entrée Express. Avec ARIMA, ce n'est pas facile du tout. Et c'est pourquoi on a autant de problèmes au Québec. Monsieur Legault, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2018, a choisi d'augmenter les résidents temporaires parce qu'autrefois, on avait des travailleurs qualifiés qui pouvaient venir et s'installer de façon définitive. Mais il est allé en Europe. Il a surtout préféré les Européens aux autres nationalités parce que ce sont des Blancs, ce sont des gens qui ressemblent beaucoup plus aux Québécois. Alors, travailleurs qualifiés, si vous voulez participer dans le programme Entrée Express, nous sommes en mesure de vous aider et vous nous appelez. Il faut non seulement avoir un diplôme, il faut que votre diplôme soit par exemple validé ou bien soit. Il y a des organismes qui sont là pour et valider ou bien pour travailler sur votre diplôme pour savoir si oui ou non ça correspond. Et en plus de ça, il faut avoir un test de français. Le test de français, il y a trois niveaux. Il y a niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Maintenant, si on passe au programme de parrainage de parents, et c'est sûr que ça se fait une fois par année, c'est le gouvernement fédéral qui va donner la date et qui va décider. Depuis quelques années, le gouvernement fédéral va prendre dans la liste des personnes qui ont appliqué depuis 2020 et on ne va pas donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir appliquer. Mais si on parle de parrainage de conjoint, parrainage d'enfant, pour faire une demande de parrainage, je vous dis, et vous avez entendu tout le débat, actuellement au Québec, c'est près de 3 ans à 4 ans. Si vous décidez de parrainer votre conjoint à l'étranger, votre conjointe à l'étranger, il faut être patient, il faut attendre au moins 3 ans avant de faire ça. Alors, c'est sûr que c'est très difficile. Si vous ne voulez pas faire ça, il faut déménager, il faut changer de province parce que ailleurs au Canada, c'est 12 mois à peu près pour un programme de parrainage. Et lorsque, par exemple, vous avez eu un dossier en cours, ce n'est pas votre représentant qui est responsable de ce délai-là. Les dossiers sont terminés par le fédéral. Ils sont tablettés, comme on dit ici au Québec, parce qu'il y a des quotas. C'est la même chose qu'on va voir aussi pour les personnes qui ont fait des demandes de résidence permanente parce qu'ils étaient des personnes protégées. Le gouvernement québécois a mis un quota, 3 500 par année. On va accepter 3 500 par année. Pendant ce temps, on a 30 000 dossiers déjà qui sont en traitement. Alors, on comprend qu'avec M. Legault, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, quand il s'agit de parrainage, vous devez démontrer la bonne foi de la relation. Souvent, le problème, c'est que vous apportez seulement le certificat de mariage et avec des fiches de transfert. Je vous dis ceci. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de fiches de transfert que vous avez assez de preuves pour établir la bonne foi de la relation. Vous vous envoyez de l'argent à votre cousin, à votre frère, à votre sœur. Est-ce que ces gens-là sont votre conjoint ou votre conjointe? Le fait d'envoyer de l'argent ne signifie pas que c'est la preuve que c'est votre conjoint, votre conjointe. En plus de ça, il y en a qui me disent, ah oui, moi j'ai voyagé plusieurs fois, je suis allé dans des pays voir ma femme et voir mon mari. qu'est-ce que vous avez comme preuve? Ce n'est pas parce que vous avez voyagé dans le pays où habite votre conjoint, votre conjointe, que vous pouvez dire que oui, c'est, j'ai été voir et mon conjoint, ma conjointe. Est-ce que vous avez des photos? Est-ce que vous avez des sorties ensemble? Alors, l'agent d'immigration va analyser tout ça et va établir que la relation est de bonne foi. Et si ce n'est pas de bonne foi, on va vous refuser. Bien sûr que vous pouvez aller en appel, mais je voudrais vous expliquer aussi le système d'appel. Parce que souvent, vous pensez qu'aller en appel, c'est surtout favorable à vous. Non, quand vous allez en appel, le juge, lui, il a déjà une décision de l'agent d'immigration et puis il va vous écouter. Il va faire la part des choses. Mais si vous avez déjà fait des erreurs dans votre dossier de parrainage, on ne va pas vous donner raison. On va donner raison, et on va vous donner raison si jamais l'agent d'immigration a mal évalué votre dossier. Or, dans la plupart des cas, c'est vous qui n'avez pas donné de dossier. Ensuite, pour les enfants, on peut parrainer un enfant qui est naturel, un enfant qu'on a mis au monde. On peut parrainer un enfant adopté. Okay? On ne peut pas parrainer un cousin, un frère et des personnes que vous connaissez. Des fois, vous me dites, ah oui, il habite tout près de moi depuis longtemps, c'est moi qui prends soin de lui. Non. En immigration, on peut parrainer un enfant naturel, un enfant que vous avez mis au monde et un enfant que vous avez adopté. Okay? S'il vous plaît, faites attention parce que je vois beaucoup de cas des gens qui se retrouvent en situation et qui ont ajouté des enfants dans leur dossier alors que ces enfants-là n'étaient pas les leurs. Avec ça, maintenant, on peut vous demander des tests d'ADN et si ça échoue, on va annuler le dossier parce que vous avez fait de fausses déclarations. Faites attention. Ensuite, pour des demandes d'asile, je sais que vous êtes très nombreux. Et ici au Québec, vous êtes venu, vous avez fait une demande d'asile. Souvent, la question qui m'est posée, est-ce que je dois faire la demande d'asile à l'aéroport? Moi, je vous déconseille de faire la demande d'asile à l'aéroport. Parce que vous arrivez, des fois vous êtes fatigué, vous ne connaissez pas le système. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous rencontrez un agent et vous faites la demande, vous allez dire des choses qui peuvent être vraiment difficiles pour vous dans votre dossier, qui veulent vous compromettre. Parce que si vous dites, par exemple, souvent c'est ce qui arrive, « Ah, moi, vous savez que les bandits ont pris le contrôle du pays. » Lorsqu'on fait une demande d'asile, on doit personnaliser le risque. On ne peut pas parler de situation générale. Chaque fois que vous faites une demande d'asile et que vous dites, « La situation du pays me force à venir ici. » Non, vous n'avez pas encore de dossier. Parce que votre dossier doit être personnalisé. Pourquoi? Que craignez-vous? Qui vous fait du mal? Qui pensez-vous qui va vous tuer? Et là, il faut donner des détails. Et c'est pourquoi je vous invite à venir, à entrer. Et en plus de ça, rencontrer quelqu'un pour vous donner des conseils. Et souvent, les parents, les personnes qui vous hébergent sont des connaisseurs. Et ces gens-là vont vous raconter toutes sortes d'histoires. Ils vont vous dire, ah oui, moi je suis ici depuis 30 ans, je suis ici depuis 25 ans. Faites attention à ces connaisseurs-là, parce que ça bouge en immigration. Moi qui travaille en immigration depuis 20 ans, chaque matin je dois aller sur le site pour vérifier s'il y a de nouvelles informations. Moi je ne peux pas me fier à ce que je savais il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Alors, quand quelqu'un vient et vous dit, « Ah oui, moi, je sais, je suis ici depuis 20 ans, depuis 30 ans, et puis vous allez faire votre demande, vous allez faire ceci, faire cela. » Non, faites attention et sachez que pour faire une demande d'asile, vous n'avez pas à dire, « J'ai peur de ISO, j'ai peur de Tilapli, j'ai peur de... » Non, ça ne fonctionne pas. Et à l'audience, vous allez avoir de la difficulté à convaincre un commissaire, une commissaire, que vous êtes persécuté. Parce qu'on va vous dire, « Monsieur, on ne peut pas rapatrier tous les gens de votre pays, parce que là, vous avez un problème général. » Ok? Si vous devez démontrer que vous avez un risque, le risque doit être personnalisé. On va y revenir là-dessus à travers les prochaines émissions. Et ensuite, pour terminer, pour les demandes de considération humanitaire, si vous avez besoin de faire une demande de considération humanitaire, tout ce que vous avez à faire, c'est de passer nous voir parce que vous avez échoué votre demande d'asile. Et là, maintenant, on va travailler avec vous. Il faut démontrer que vous avez des difficultés pour retourner. Et en même temps, il faut démontrer votre niveau d'intégration au pays. Et c'est comme ça qu'on fait une demande de considération humanitaire. Malheureusement, et on est arrivé à la fin de l'émission. Je vois que le temps passe très, très, très vite. On a déjà épuisé les 60 minutes qui nous étaient allouées. On est là avec vous chaque samedi, de 7h à 8h. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de dire à vos amis que le rendez-vous est pris chaque samedi, de 7h à 8h. Il y a un représentant, il y a quelqu'un qui connaît l'immigration, qui est là pour expliquer exactement et comment ça fonctionne en immigration. Et vous avez besoin de ce service-là. Notre bureau se trouve au 53-50 de la rue Jean-Talon-S. Les téléphones pour nous suivre, pour nous contacter, c'est 438-385-9398, 438-382-9398, 438-876-9398. Trois numéros de téléphone. On a également le site internet de Vision Max Service et la page Facebook de Vision Max Service que vous pouvez également écouter. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre cher technicien qui a assuré ce travail-là. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous samedi prochain à 7h AM pour une nouvelle émission. Bonne journée.
Vous accompagne dans vos démarches juste rue Jean Talon Est, entre Vio et la Cordère. Téléphone.
La phase 2 de Noria Appartement est maintenant complétée. Découvrez l'unique projet d'appartement locatif neuf et contemporain au cœur de l'arrondissement Saint-Laurent. Vous verrez, avec sa formule, tout inclus, son stationnement intérieur, sa piscine, ses multiples espaces de rangement, ses aires communes ainsi que ses nombreux services et commerces de proximité, le Noria est facile à vivre et facile à aimer. Visitez-nous. Noriaappartement.com.
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas qu'un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a ou qu'on aille. Produit le mettez sous étagelle sans ouéter, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le Journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Bla, bla, bla. Causerie de tout et de rien. Cette idée a vu le jour il y a 3 ans, alors que, confinés à la maison, COVID oblige, Natacha et moi discutions sur l'application WhatsApp. Matin, midi et soir.
Nous voulions créer un événement live hebdomadaire avec la même dynamique qu'on avait au quotidien. Des interactions amicales et amusantes.
Après un an de pur plaisir passé en votre compagnie sur les réseaux sociaux, c'est avec grande fierté que nous vous présentons enfin Blabla!
Yeah! Sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM, tous les samedis matins à 9h. Au plaisir de se retrouver.
Nous sommes Blabla, tu es Blabla, à tout de suite!
Deuxième génération d'immigrants, êtes-vous là? Où êtes-vous? Terre d'origine ou terre d'accueil? Edna Rencontre vous invite à chaque samedi de 21h à 22h à identifier avec ses invités les dualités conscientes ou inconscientes qui habitent la deuxième génération d'immigrants. C'est une rencontre de soi et des autres pour repousser nos limites, découvrir de nouveaux horizons et voir autrement. Rendez-vous chaque samedi à Radio Centre-Ville, 21h à 22h, car nous sommes nés pour triompher.